Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Abdelatif, donc, qui est notre premier auditeur à réagir sur ce débat du voile qui enflamme la France depuis 32 ans. Les collégiennes de Creil, c'est 1989.
Et si je me rappelle très bien, c'était François Bayrou qui était ministre de l'Éducation nationale.
Non, c'était Lionel Jospin.
C'était Lionel Jospin, mais François Bayrou aussi il était confronté à ce problème-là. Et on en finit en 2021 avec le dépôt d'un amendement à la loi, à cette loi-là, pour interdire le foulard. Alors, moi je vais être clair, Pascal, on en a parlé plusieurs fois. Je vais dire d'abord que ce foulard, pour moi et pour la majorité des musulmans, n'a pas un symbole de provocation ni de la République ni de la laïcité. Il y a peut-être une infime partie des musulmans qui l'utilisent dans ce sens-là, mais il y a en face des gens qui sont anti-foulards parce que pour eux, c'est ce symbole-là. Je vais demander tout simplement au législateur, si c'est possible, la voix d'un petit citoyen, est-ce que c'est possible de mettre définitivement une loi qui règle ce problème et ne pas aller petit à petit l'interdire pour les élèves, l'interdire pour les étudiants, l'interdire dans les administrations. Et aujourd'hui, on découvre, c'est comme si on découvrait que c'était quelque chose qui est aussi, que l'on peut tomber sur des présidents de bureaux de vote ou des assesseurs de bureaux de vote voilés. La France, c'est ça. La France, c'est ce que j'ai vu il y a deux jours et sur le terrain de football, avec des blacks, avec des blancs, avec des beurs. C'est ce que j'ai vu sur les gradins où des gens étaient heureux quand on a gagné et des gens malheureux, abattus, et de toutes les horizons, de toutes les origines, qui pleuraient après la défaite de la France. Et je voudrais tout simplement dire, c'est cette France que je veux voir. Que le voile soit toléré, accepté, et comme ça on va apaiser le débat politique, où il soit définitivement, mais vraiment définitivement, mais avoir le courage politique de quelque majorité qu'il soit, avoir ce courage politique de dire définitivement, voilà, on va l'interdire dans tous les cas, sauf ce soit encore heureux, et sauf dehors.
Non, mais c'est intéressant parce que le droit, c'est intéressant d'aller dans le droit et de rappeler cette polémique qui est née en octobre 89. C'est l'exclusion de trois collégiennes qui refusent d'enlever leur voile en classe. Alors, il y a une polémique évidemment qui fait rage. Et le 27 novembre 89, un arrêt du Conseil d'État estime que le port du foulard islamique n'est pas incompatible avec le principe de laïcité.
Laïcité, oui.
Donc nous sommes en novembre 89. En 2003, Jacques Chirac suit les recommandations de la commission, dite Stasi, et lance la rédaction d'un projet de loi interdisant les signes religieux dans les écoles publiques françaises.
Française, oui.
En 2004, cette loi est votée et adoptée par l'Assemblée nationale. En 2019, le Sénat a adopté un amendement à la loi pour une école de la confiance visant à interdire les signes religieux ostentatoires, donc qui prolongeait d'une certaine manière. Donc on en est là aujourd'hui, donc on n'a pas le droit de porter le voile à l'école, pour faire simple. Bon, mais dans un bureau de vote, les fonctionnaires également sont soumis à une neutralité,
un droit de réserve,
à une neutralité, oui. Mais dans l'espace public, vous faites ce que vous voulez.
Oui,
simplement, en l'espèce, l'assesseur qui a été prise en photo avec Jordan Bardella,
ouais,
dans le bureau de vote,
exactement,
cette jeune femme est militante Europe Écologie Les Verts. Donc ouais, c'est important de le dire aussi.
Oui, bien sûr.
Ce n'est pas. Alors, c'est vrai que beaucoup d'assesseurs, d'ailleurs, sont des femmes ou des hommes politiques. Mais vous pouvez imaginer que cette femme, est militante, pourquoi pas, de la possibilité de porter le voile précisément dans un bureau de vote. On ne peut pas l'écarter quand on connaît sa sensibilité politique. Et elle pouvait également savoir que Jordan Bardella était inscrit dans ce bureau de vote et peut-être, ou pourquoi pas, qu'il s'agissait d'une mise en scène.
Mais
vous voyez,
Pascal,
je n'écarte volontairement aucune hypothèse, puisque c'est
plaît,
une militante.
Pascal, s'il vous plaît, c'est exactement ce que je pointe du doigt. Si vraiment cette présidente du bureau de vote...
Oui, elle était assesseur. Ce que je regrette, c'est que personne ne dise que cette femme était une militante Europe Écologie Les Verts.
Alors,
moi, je veux avoir toutes les informations pour me faire une opinion.
Une question.
Personne ne le dit.
Mais
donc,
Pascal,
moi, je le dis.
Dans l'écologie, le port du voile n'est pas obligatoire. C'est dans l'islam que c'est obligatoire. Alors, je ne vois pas quel amalgame vous êtes en train de faire. Ça me choque un petit peu votre question, je vous le dis.
Mais je ne juge
c'est
pas...
C'est chez les musulmans que c'est obligatoire, c'est pas chez les écologistes que le foulard est obligatoire.
Je ne juge pas, je vois, je vois comme tout le monde aujourd'hui des passerelles qui existent entre Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise parfois, et une volonté d'aller chercher de nouveaux électeurs. On ne va pas se raconter de salade, Abdelatif.
Oui, je peux vous poser une question ?
Mais bien
c'est
sûr.
Qui le maire, c'est qui le maire de cette commune où il y a eu le vote ? Parce que moi, j'ai vu la photo sur Twitter.
C'était à Saint-Denis. Je ne peux pas vous dire dans quelle commune M. Bardella
donc,
a voté.
Normalement, un bureau de vote, c'est sous la responsabilité du maire.
Je pense, je vais vérifier ce que vous dites. Quand je n'ai pas la réponse, je vérifie.
Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a 15 jours, c'était au premier tour, c'est pas le second tour, je crois. C'était au premier tour. J'étais un peu étonné qu'il n'y ait pas eu de buzz après cette photo. Il y a eu juste quelques discussions sur Twitter et sur les réseaux sociaux, et j'étais étonné. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose pour être honnête. Je m'attendais à ce que ce soit le Front National qui dépose un amendement de ce sens-là, parce qu'ils l'ont utilisé.
Mais oui, mais le Rassemblement National n'a pas envie aujourd'hui, dans une logique peut-être de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, il a émargé son vote. J'ai entendu ce matin Nadine Morano disant, moi, des Républicains, j'aurais refusé d'émarger le vote et j'aurais demandé de faire venir un représentant du préfet. D'ailleurs, il est possible que ce soit la préfecture pour c'est pas le maire. Je pense que c'est la préfecture. Je pense que les votes, ce qui est plutôt logique puisque le préfet est le représentant de la nation. Donc je pense que c'est sous l'égide du préfet. Et d'ailleurs, depuis la préfecture a demandé que cet assesseur soit remplacé. C'est aussi important de donner tous les éléments.
Pascal, je ne défends pas, franchement, après je vais laisser peut-être la parole à d'autres auditeurs, mais je ne défends pas le port du voile. On en a parlé dernièrement, il n'y a pas longtemps, et je vous ai dit que moi, en tant que musulman, pour moi, le voile, si je dois le classifier parmi tout ce qu'une femme, tout ce qu'un musulman doit faire, il est vraiment très loin, c'est pas très important. Moi, ce qui me dérange, c'est que... Ce qui me dérange, c'est ceux qui l'utilisent comme une provocation, et ce qui me dérange, c'est ceux aussi qui l'utilisent pour viser les musulmans. Tout à l'heure, vous avez bien dit qu'à un moment donné, il a été décidé que le voile n'était pas incompatible avec la laïcité, mais il y a eu vraiment de l'eau qui est passée après, pour la simple raison qu'on était dans ce qu'on appelait dans le temps une laïcité inclusive. Aujourd'hui, on a aussi la laïcité exclusive.
On marque une pause. En tout cas, moi, je vous donne toutes les infos et après, chacun se fait son jugement. Je rappelle que la présidente d'un bureau de vote voilé a été contrainte de permuter avec un assesseur au premier tour des élections régionales. C'est la préfecture qui a demandé à cet élu local Europe Écologie Les Verts d'échanger sa place avec celle d'un assesseur. Les autorités s'appuient sur le code électoral qui impose la neutralité au président de bureau de vote. C'est important de le dire parce que Marlène Schiappa, hier, qui est intervenue à l'Assemblée nationale, d'une certaine manière, elle était en opposition avec le choix de la préfecture, en l'occurrence du préfet, ce qui est étrange, puisque le préfet est le représentant du Premier ministre et de l'action gouvernementale. La pause, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Faut-il interdire le voile chez les assesseurs des bureaux de vote ? Les députés se sont enflammés hier soir sur ce sujet. Écoutez le débat houleux entre la ministre Marlène Schiappa et les députés Les Républicains Éric Ciotti.
Si on débat ce soir, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des Français assassinés. Vous refusez de vous attaquer au vrai problème. Il n'y a pas de problème de voile à l'école pour les accompagnants scolaires. Il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. Circulez, il n'y a rien à voir, on ne change rien et on se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste.
Quand je vous entends, monsieur Ciotti, faire un parallèle entre cette dame qui s'est levée tôt pour aller être assesseur bénévolement et un acte terroriste et la comparer à des assassins, je suis scandalisée. Scandalisée pour cette dame. Moi, je veux rendre hommage à cette dame. Et on devrait avoir plus de bénévoles qui se lèvent, quel que soit ce qu'ils ont ou pas sur la tête, pour venir tenir les bureaux de vote. Peut-être qu'avec plus de dames comme elle et moins de gens comme vous, la démocratie s'emporterait mieux.
Vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Tiens, observe Thierry, cela faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas eu d'incident sur une histoire de voile. Mais après, on enlève des crèches dans les mairies à Noël et pour une élection républicaine, on peut afficher publiquement sa religion. Chercher l'erreur, Marc est très clair. Quand je vais voter, oui, voir un signe religieux me gêne et je me dis que cela pourrait même influencer certains dans leur vote. De mieux en mieux dans ce pays, s'inquiète Pascal sur nos réseaux sociaux. Maintenant, on s'en prend aux femmes qui sont volontaires pour participer à la vie démocratique. Et pour Gérard, que tous les porteurs de haine viennent déjà dans les bureaux de vote et jouent leur rôle de citoyen.
Nous sommes avec Erel. Bonjour Erel, vous êtes étudiante en sociologie, vous habitez Toulouse et vous vouliez intervenir sur ce sujet.
C'est ça, exactement. Bonjour à tous.
Bonjour
Erel. Et donc du coup, oui, par rapport au débat qui s'est ouvert vis-à-vis de la femme voilée qui occupait la place d'assesseur la dernière fois là. Moi déjà, je trouve que c'est assez hallucinant en fait que ce débat il se pose et moi je voudrais déjà apporter tout mon soutien à cette femme qui en fait s'efface là et portée fait face à une vague en fait d'attaques impressionnantes alors qu'en fait elle a été bénévole pour jouer enfin aider en fait même dans le processus d'élection qui s'est tenu ces dernières semaines. Mais surtout moi la chose que sur lequel je voudrais insister parce que je pense que c'est important, c'est que beaucoup on insiste sur le fait que ce soit une rupture de la laïcité, etc. Et moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup dénoncer parce qu'en fait et on voit ça depuis des années, on utilise et il y a une instrumentalisation de la laïcité, non pas comme la neutralité de l'État vis-à-vis de la religion, mais la laïcité, ça devient un combat pour l'éradication de l'espace public, notamment d'une religion en particulier, qui est la religion musulmane, et ça se fait sur le terrain répressif. Et notamment, je pense que ce serait intéressant de regarder, en comparaison avec les autres religions, en fait, et je pense qu'on l'a vu pendant des années et des années, à quel point il y a une différence de traitement quand on est une personne musulmane ou quand on est une personne chrétienne. On l'a vu même pendant le confinement avec des chrétiens en fait qui organisaient des prières de rue pour la réouverture des églises et sur qui on n'a pas crié à une rupture de la laïcité de la même manière. Et en fait, on voit même vis-à-vis du fait que ce débat il se soit posé à l'Assemblée nationale parce qu'il y a toute une frange en tout cas des partis du gouvernement qui vont du Parti Socialiste au Rassemblement National, en passant par le Modem, les Républicains, LREM, etc., qui sont en fait d'accord et qui ont en fait un consensus sur une utilisation punitive de la laïcité islamophobe et qui en fait est utilisée comme un combat en fait contre les religions et notamment contre la religion musulmane en attaquant les libertés individuelles des personnes en fait qui se revendiquent et qui pratiquent cette religion-là. Et je pense que c'est en tout cas quelque chose à dénoncer sans hésitation.
Alors Erel, évidemment, je ne vous ai pas interrompu. Deux choses, et c'est des sujets très très délicats. D'abord, dans la société française, vous ne pouvez pas comparer la religion catholique millénaire avec la religion musulmane qui n'était pas présente en France il y a encore 30 ans. Donc il y a une histoire, une culture, des mœurs, et vous ne pouvez pas comparer les deux religions. La religion catholique, chrétienne, elle est pratiquée en France depuis 2000 ans. Bon, il n'y avait pas de musulmans en France il y a 50 ans, en tout cas dans la France métropolitaine. Donc forcément, il y a un changement qui s'opère, il faut l'accompagner, il ne s'agit pas de le rejeter, mais les traditions aussi et la culture, ça existe. Première chose. La deuxième chose, c'est le voile. Le symbole de ce voile, qui au-delà d'être un symbole religieux, est parfois perçu comme le symbole de la soumission féminine dans des sociétés ultra-patriarcales. C'est ça que aussi signifie le voile. Donc, en tout cas pour certains, tel qu'il est interprété. Donc vous êtes obligés de prendre ça en compte et le comparer à une croix. C'est pas la même chose. Ma médaille de baptême ou une croix qui n'est pas ostentatoire n'est pas la même chose que de s'afficher ostensiblement avec un voile, ce qui peut être d'ailleurs parfois aussi un signe politique. Je disais que tout à l'heure que dans un bureau de vote du Val-de-Marne, une conseillère municipale Europe Écologie des Verts, en l'occurrence de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, a été obligée de permuter. C'est la préfecture qui lui a demandé de permuter parce que le code électoral impose la neutralité au président de bureau de vote. Elle était présidente de vote, cette dame-là.
Bon, alors pour rebondir sur plusieurs choses, mais parce que déjà on dit, enfin vous venez de dire, il faut accompagner justement cette modification. Mais en fait, moi, j'ai pas pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on l'accompagne du tout, parce qu'en fait, et on le voit très bien.
Le Conseil d'État, il l'a accompagné dès 1989. Hein.
Oui, mais
et les lois françaises, justement, l'ont accompagné. Ils ont accompagné ce mouvement. Ils ont pris en compte la réalité d'une religion qui est pratiquée aujourd'hui. Alors, est-ce 7, 8, 9 millions de nos compatriotes ? Je n'en sais rien. Mais on va marquer une pause et on va continuer, elle, si vous voulez, cette discussion, puisque elle est intéressante. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le débat sur le voile agite la société française depuis 1989. Pour certains, il est considéré comme un acte de séparatisme, le cheval de Troie d'un islam conquérant, prêt à tout pour changer les mœurs de France et substituer un état religieux à une république laïque. Et pour d'autres, il est l'expression d'une tolérance à la française, l'héritage des Lumières qui permet à chacun d'afficher sa croyance, de penser comme il le souhaite et de porter dans l'espace public soutane, kippa ou voile. On est avec Erel et on va conclure avec elle avant d'écouter Majid. Erel.
Oui, alors, mais déjà pour répondre, parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure, mais par rapport au premier arrêt même du Conseil d'État en 1989, il rappelle que le port d'un signe d'appartenance religieuse par des élèves ne constitue pas en soi une atteinte au principe de laïcité. Et là, pour rebondir de manière plus générale, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que on considère que le voile est interprété comme du prosélytisme, et on le fait de manière constamment, et notamment, c'est une attaque que subissent les femmes voilées de manière de plus en plus récurrente, alors que moi, je pense et que les femmes ont tout à fait le droit en France, mais aussi à l'international, le droit de disposer de leur corps et de choisir si elles peuvent porter le voile ou non. Mais moi, ce que j'aimerais, ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est justement cette instrumentalisation de la laïcité comme un combat répressif contre la religion musulmane, parce que j'ai l'impression qu'on occulte un peu cette question.
Mais j'ai compris, Erel, vous l'avez dit plusieurs fois.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui disparaît un peu. Mais surtout,
j'entends, puisque vous l'avez répété plusieurs fois. Donc, je comprends, j'entends votre position.
Ce sur quoi moi j'aimerais insister, c'est justement les débats qui se sont posés à l'Assemblée nationale, parce que et on écoutait tout à l'heure, là, ça a été diffusé, la prise de position de Marlène Schiappa, qui s'est dit opposée à l'amendement du MoDem, alors même qu'en fait elle est la principale porteuse de la loi séparatisme qui se base justement sur cette utilisation répressive de la laïcité. Et donc, de ce point de vue-là, on voit que notamment la majorité présidentielle joue un aller-retour un peu incessant politiquement en se positionnant et en essayant d'allumer les brèches sur sa droite, tout en, quand les débats en fait vont un peu trop loin pour elle, se positionne à gauche comme si elle était modératrice, etc.
J'entends bien, on va prendre Majid maintenant, je vous remercie, vous êtes étudiante et très brillante manifestement et très argumentée, même si on peut apporter la contradiction bien sûr à ce que vous dites. Et nous sommes maintenant avec Majid qui sera le dernier intervenant sur ce sujet, on parlera ensuite d'Éric Zemmour, sans qu'il y ait un rapport de cause à effet. Et Majid qui est étudiant et qui souhaite intervenir sur ce sujet. Bonjour.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Cette question du voile dans les bureaux de vote, Pascal, selon moi, elle reflète le fait que les femmes musulmanes voilées, elles sont sous le feu de deux extrémismes. On a un premier extrémisme qui prend sa source dans une certaine vision de l'islam et qui leur dit « vous n'avez rien à faire dans un bureau de vote car la démocratie c'est un système impie, car c'est pas notre culture et c'est pas notre voie ». Et on a un deuxième extrémisme qui leur dit « vous n'avez rien à faire habillé de la sorte dans un bureau de vote parce que le voile que vous portez sur la tête, c'est le fruit d'un système qui n'est pas le nôtre et qui est un archaïsme. Et ce voile est en quelque sorte un étendard politique. Mais en fait, le problème, il est moins dans dans le fait d'aller fouiller dans la tête de cette femme et d'y trouver des quelconques idées séparatistes que dans justement la vision qui est faite de ce voile par certains. Moi, je vois cette femme. Elle a fait un acte citoyen. C'est un acte positif. Et je pense qu'on pinaille là, qu'on pinaille en allant chercher.
Oui, mais quand on pinaille, je dirais, c'est toujours pareil. C'est la position par rapport au voile. Si quand je disais tout à l'heure, je veux bien que vous disiez qu'on pinaille, mais je vais répéter. Qu'une nouvelle fois, dans le Val-de-Marne, la présidente du bureau de vote, c'est une militante. C'est une militante Europe Écologie Les Verts. Et elle a été d'ailleurs recadrée, je le répète, par la préfecture. Donc vous ne pouvez pas écarter l'idée que cette militante... on sait les passerelles qui existent entre Europe Écologie Les Verts, c'est vrai aussi pour la France Insoumise, avec un nouvel électorat, que ce soit un signe qui soit donné à cet électorat pour pourquoi pas capter de nouvelles voix. On va pas être naïf, ça peut exister, je vous dis pas que ça l'est, je vous dis que ça peut exister, Majid. Je veux pas être naïf.
Oui, je comprends, mais
je veux pas être naïf. Et puis, je le répète, on peut aussi considérer que le voile, c'est le symbole de la soumission de la femme à une société patriarcale qui n'est pas la nôtre. Ça peut aussi s'entendre que ça ne correspond pas aux mœurs françaises. Je parle même pas de religion, là, je parle de mœurs.
Oui, on voit donc bien que c'est une question de lecture.
C'est une question de lecture. Mais c'est, ah oui. Je veux dire, là, c'est simple. La société française, elle a son histoire, ses traditions, sa culture. Donc, jusqu'à présent, tout le monde s'assimilait. Tout le monde s'assimilait. Le communautarisme n'existait pas. Si tu ne voulais pas de cette société-là, ou tu repartais, ou tu... Bon, aujourd'hui, c'est différent. Il y a... dans la France d'aujourd'hui, une volonté parfois de communautariser, de ne pas vivre à la française, si j'ose dire. À la française, et je mets vraiment des guillemets pour le dire. Eh bien, on voit les frictions que ça crée. Alors c'est une minorité, sans doute, je n'en sais rien, je ne peux pas le chiffrer. Mais le modèle n'est plus de l'assimilation, et ça l'était. D'où les frictions qui existent. Merci Majid, en tout cas. Merci beaucoup. On va parler maintenant d'Éric Zemmour et sans rapport de cause à effet, bien évidemment, avec le sujet que nous venons d'évoquer. Je salue Greg Caradoni.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
C'est des sujets sérieux aujourd'hui, vous avez vu.
J'écoute, j'ai entendu ça. Et nous irons même faire un tour sur les routes du Tour de France dans quelques instants après la pause.
Avec qui ?
Avec Morad Djabari.
Ah ben ça va être passionnant. Et on parlera football aujourd'hui ou pas ? Est-ce qu'on parlera Zidane ?
C'est les auditeurs qui choisissent. Hein.
Les auditeurs ont toujours le dernier choix. Tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. RTL, Tour de France 2021.
Avec Morad Djabari. Bonjour Morad.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous êtes où ?
Je suis sur la ligne d'arrivée du contre-la-montre de cette cinquième étape. En Mayenne, c'est un contre-la-montre entre Changé, c'est au nord de Laval, et une arrivée à Laval. C'est une boucle de 27 km, un contre-montre individuel, donc un exercice particulier. Le meilleur temps pour le moment est réalisé par le Danois Mikkel Berg en 33 minutes et 1 seconde. Jérémy Cabot, quatrième meilleur temps, c'est un Français. Vous savez, Pascal, pour ce contre-la-montre, l'usage, c'est les derniers du classement général partent en premier, et il y a quelques minutes, minutes. C'était un certain Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, qui est arrivé. Il avait chuté lors de la première étape et lui qui était très bon dans le passé, il ne s'est pas illustré encore une fois aujourd'hui. Mais ce qui nous tient en haleine, notre question du jour sur le Tour de France, c'est est-ce que Julien Alaphilippe va reprendre son bien, son maillot jaune aujourd'hui? Il est seulement à 8 secondes du petit-fils de Poupou, Mathieu Van Der Poel. Lui, pas forcément à l'aise dans cet exercice. Réponse cet après-midi sur RTL. Prochain point dans une demi-heure.
Morad Jabari sur la route du Tour de France.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Éric Zemmour serait-il un candidat crédible à la présidentielle? La maison d'édition Albin Michel a indiqué avoir rompu avec le polémiste parce qu'il veut devenir un homme politique et a l'intention de s'engager dans la présidentielle de 2022. Éric Zemmour dément formellement avoir dit qu'il était candidat. Ce qui est sûr, c'est que son prochain livre ne sera pas publié par Albin Michel. L'éditorialiste avait réagi hier soir chez nos confrères de CNews.
Il devait sortir entre la mi-septembre et la fin septembre, donc chez mon éditeur habituel depuis maintenant 10 ans, Albin Michel. Et j'ai reçu la semaine dernière une lettre d'Albin Michel me disant qu'il ne souhaitait plus m'éditer. Prétextant, là, évidemment, la présidentielle, le contexte politique, etc. Donc, voilà, je me retrouve sans éditeur. Donc, je suis un peu perturbé.
Souhaitez-vous qu'Éric Zemmour soit candidat à l'élection présidentielle? Oui, nous dit Fred sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. On voit bien que le RN est en difficulté. Ça ne prend pas avec Marine Le Pen. Il faut tenter un autre candidat. Qu'il reste à la télévision, lance David. S'il se lance, ce sera terminé pour lui. Il fera aller au mieux 5%. Encore faut-il qu'il ait les signatures pour se lancer dans la course. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10, 3-2-1-0.
Merci Laurent. On est avec donc Francis. Francis qui est enseignant. Donc ça va être intéressant d'entendre son point de vue. Bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditeurs. Oui, alors Albin Michel réagit et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'attendais avant cette annonce-là par quel biais on pourrait attaquer Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, on le présente comme l'anti-système. L'anti-système qui écrit dans le Figaro, qui parle sur RTL, qui parle sur CNews, sur Paris Première, etc. Ça n'est pas de l'anti-système. Si Éric Zemmour a les clés de tous les médias, c'est qu'il sert le système.
Mais personne ne présente comme anti-système, hein, pardonnez-moi.
Ah si, on a expliqué...
Mais il est dans le système, il a été éditorialiste à RTL, il a été éditeur... C'est pas ça être anti-système. Il est effectivement un des acteurs du système, mais personne ne le présente vraiment comme anti-système.
Il a été présenté par plusieurs responsables politiques dans les deux semaines qui ont passé comme étant un candidat de l'anti-système, etc. Parce que pour eux, l'anti-système, c'est l'anti-système politique. Vous n'appartenez pas à un parti politique, donc vous êtes anti-système, ce qui est une erreur, mais... voilà. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Ensuite, Éric Zemmour, c'est dans 10 mois l'élection, n'a pas de parti politique. Il se présente ouvertement comme de droite et souverainiste. Droite et souverainiste, vous avez Philippot, vous avez Asselineau, vous avez Dupont-Aignan, vous avez d'une certaine manière Marine Le Pen. Donc, c'est une offre qui existe déjà. Et si Éric Zemmour se présentait... Maintenant, parlons purement stratégie politicienne, de la pure politique politicienne de bas étage. Si Éric Zemmour se présentait, à qui prendrait-il des voix? Très certainement, sur un sondage qui a eu lieu il y a 10 jours, très certainement à Marine Le Pen. Or, le système, qui est pour moi représenté par Emmanuel Macron, veut un deuxième tour parce que c'est la seule façon de gagner, hein, par le brillant Front républicain, qui est pour moi une réaction antidémocratique, mais par le brillant Front républicain, Emmanuel Macron sait que c'est sa seule chance de reconduire son mandat, c'est d'être au deuxième tour contre Marine Le Pen. Donc il ne faut pas affaiblir Marine Le Pen, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve en dessous de... Vous aviez Bertrand, par exemple.
Vous savez ce que William Galibert disait tout à l'heure, que a priori, si Éric Zemmour se présentait, il prendrait davantage aux Républicains. Vous savez, le Rassemblement National, c'est assez flou hein, aujourd'hui. L'idéologie, si vous arrivez, vous, à y retrouver une ligne directrice, il faut que vous me disiez.
Non.
L'avantage qu'a Zemmour, c'est qu'il a une ligne cohérente. C'est un conservateur XXL qui rêve d'une France, effectivement, qui est morte, disons-le, et qui ne prend pas en compte ce qui a changé dans la France, et notamment une partie de la population qui est issue de l'immigration. Voilà, pour faire simple. Donc il a beaucoup de mal à considérer que l'assimilation, précisément, dont on parlait tout à l'heure, ne s'est pas faite. Et il rêverait du modèle ancien. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Ça, c'est une question que je vous pose.
Bah, je partage votre analyse et je partage son analyse. Quand votre chroniqueur tout à l'heure ou votre invité tout à l'heure disait qu'il prendrait des voix aux Républicains, j'en suis pas sûr du tout. Les Républicains sont totalement européistes, mondialistes. Quelqu'un comme Xavier Bertrand, si c'est lui.
Mais c'est pour ça qu'il en prendra. C'est pour la raison que vous venez de dire. C'est que vous avez beaucoup d'électeurs des Républicains qui ne sont pas européistes. Et oui. Que vous, qui étiez dans la tendance Seguin et De Villiers, il y a fait ceux qui n'ont pas voté Maastricht. Et ceux-là, vous allez les retrouver chez Zemmour. C'est les électeurs du Brexit.
Ce sera, de toute façon, à mon avis, ce sera quelque chose d'assez marginal.
Ça, c'est possible.
Je passe au point suivant. Il n'a pas de parti politique. Ensuite, vous savez que pour peser dans une campagne électorale, il faut quelques millions d'euros.
Eh bien, on va continuer cette discussion juste après la pause. Parce que ça aussi, vous avez raison, Francis, c'est une question importante.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On est avec Francis et on termine sur Éric Zemmour. L'argent, disiez-vous.
Oui, je disais l'argent parce que c'est important dans une campagne de pouvoir être présent médiatiquement. Et Zemmour n'aura pas les quelques millions qu'il faut pour faire campagne puisqu'il n'a pas de parti. Donc il faut aller chercher l'argent ailleurs, ce qu'avait très bien réussi à faire Emmanuel Macron en 2016 et 2017. On se rappelle des célèbres levées de fonds à Londres et du porte-valise de l'époque. Sauf que Emmanuel Macron, il était très facile pour lui de lever de l'argent auprès, on va dire, entre guillemets, des ultra-riches et de leurs milliers de filiales, puisque vous savez que le don à un parti politique est limité pour un particulier et pour une entreprise. Donc seuls les grands qui ont beaucoup, beaucoup de filiales peuvent arroser comme ça amplement le candidat qu'ils ont choisi. La différence entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, c'est que Éric Zemmour étant souverainiste, nationaliste, il est un frein au business mondial, à la globalisation, à la mondialisation, par ses idées, par son discours, etc. Et donc, je ne le vois pas non plus aller chercher l'argent auprès de ce que certains appellent les ultra-riches. Donc, il part, et puis il n'a pas de programme. Et puis, en économie, c'est quelqu'un d'extrêmement instruit et d'extrêmement cultivé, avec une grande connaissance de l'histoire. Mais en économie, il pense quoi ? Dire « je suis de droite », ça ne veut pas dire grand-chose.
J'ai envie de dire, il est terrible, parce que ce n'est pas son point fort. Et il n'est pas libéral, quoi. Il est, en fait, colbertiste. C'est-à-dire qu'on est au XVIe siècle. C'est l'État qui gouverne l'économie pour Éric. C'est même très très étonnant. C'est Richelieu, Louis XIV et Colbert. J'exagère un poil, mais le libéralisme, c'est pas son truc.
Alors, il est une copie plus médiatisée de Asselineau, puisque Asselineau, qui en plus a travaillé comme chef de cabinet, directeur de cabinet de certains ministres, qui a travaillé dans des ministères, etc.
Mais c'est pas l'économie, je veux pas dire qu'il connaît rien. Éric, je vous assure, moi je commence à bien le connaître, je le vois tous les jours, j'ai de la sympathie pour lui, pour sa culture, pour son intelligence. Il est un vrai idéologue, avec le défaut des idéologues, c'est que tout doit rentrer dans la bouteille. C'est-à-dire qu'il part de son idéologie et parfois il tord le réel pour le faire rentrer dans la bouteille. Et de temps en temps, donc, il peut se tromper. Et son truc, c'est le poids de la France, c'est la grandeur de la France dans le monde, c'est l'histoire de France, c'est un nostalgique d'une France, effectivement, qui est morte, c'est jacobinisme XXL, c'est le pouvoir central très fort, c'est des thèmes qu'il développe tous les soirs, si vous l'écoutez, sur CNews.
Oui, alors c'est aussi...
Et c'est la culture, bien sûr, et c'est évidemment, vis-à-vis de l'islam, il pense que l'islam n'est pas forcément la meilleure chose pour la société française. Voilà, si je peux le résumer comme ça. Une défiance, je cherchais le mot, une défiance de l'islam. Voilà, il pense que l'islam est conquérante, je ne veux pas parler parler pour lui, bien sûr, mais il pense que l'islam est conquérante et que l'islam, là où l'islam prospère, ben, les libertés individuelles peuvent être en danger. Et en tout cas, que la société française est en danger parce que ce n'est pas son histoire.
Oui, alors il développe des thèses qui sont aussi développées par Michel Onfray, par exemple.
Bien sûr.
Il développe des thèses qui sont justement, je l'ai dit, chez Asselineau, etc., etc. J'ai assisté à bon nombre de conférences sur l'islam et est-elle une religion compatible avec
c'est ça,
la République.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et donc, vous avez tous les points de vue qui sont développés. Pour conclure, si vous voulez, parce que je voudrais,
oui, parce que je voudrais qu'on puisse
sujets.
Écouter. Il y a beaucoup de. En fait, c'est passionnant, Zemmour. Mais là, ça fait un petit moment peut-être que vous échangez sur ce thème. Donc, je voudrais qu'on écoute Charles et Philippe qui nous attendent. Donc, un mot de conclusion.
Zemmour ne sera pas candidat. C'est court, c'est concis, ça va, ça va.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tous les jours, je le titille. Tous les jours, je le titille, parce que c'est d'abord, c'est mon tempérament. Donc, je lui dis, alors, bon, le lundi, je me dis, il est candidat. Le mardi, je me dis, il n'est pas candidat. Le mercredi, je me dis, il n'est pas assez fou pour être candidat. Je vous dis, je suis au plus près de ce que je pense. Hein. Je dis, mais il n'est pas assez fou quand même pour être candidat. Il a une place formidable dans la société française. Il est éditorialiste. Il est sur les antennes de CNews. Il a 700 000 personnes qui le regardent tous les soirs. Etc. Il va aller se jeter dans la mare au crocodile ou dans la. Et je suis pas sûr que ce soit son intérêt. Et pour le coup, je lui dis, vous voyez, comme je suis camarade avec lui, je suis pas sûr que ce soit ton intérêt, Eric. Mais après, les hommes sont les hommes. Oui. Cher Francis, les hommes sont les hommes. Moi, je ne suis
je
pas
vous
dans
rejoins
le...
sur votre conclusion.
Je ne suis pas dans le cerveau d'Éric Zemmour. Chacun à sa place, et les vaches seront bien gardées, disait je ne sais plus qui. Greg Caradoni, vous parlez pas aujourd'hui.
Non, j'écoute avec attention cette émission. Je me dis que vous êtes déjà conseiller peut-être d'un futur président.
Ah non. Alors, écoutez, chacun à sa place. Je viens de dire.
Ah ben justement.
Moi, je suis journaliste et pragmatique. Voilà.
La vous voulez que je parle, je vous titille un peu comme vous. Hein.
Titillez-moi, ami.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier. Et nous pouvons parler football dans l'émission après l'élimination des Bleus en 8e de finale de l'Euro face à la Suisse. Zinedine Zidane doit-il remplacer Didier Deschamps? Est-il la solution pour l'équipe de France? Pour le président de la Fédération française, Noël Le Graët, Zidane arrivera bien un jour à la tête des Bleus? Quand? Je ne sais pas. Déclaration hier dans le Figaro. Et en Espagne, le présentateur de l'émission télévisée de football la plus populaire s'en donne à cœur joie.
Zidane a quitté le Real Madrid en espérant pouvoir entraîner l'équipe de France. Aujourd'hui, il est plus près que jamais de le faire. Il va se passer des choses prochainement. Zidane voulait entraîner l'équipe de France et il savait que ce moment pouvait arriver. La fédération française lui avait dit que si Deschamps échouait, ce serait possible.
Noël Le Graët et Didier Deschamps se sont donné une semaine pour réfléchir et se revoir. Pour Georges, sur nos réseaux sociaux, le problème, ce n'est pas Didier Deschamps, mais les joueurs et leur égo surdimensionné. David en est persuadé, il faut une nouvelle dynamique, donc un nouveau sélectionneur et des hommes sur le terrain qui veulent prouver qu'ils méritent leur sélection. Pour Émilie Deschamps, mérite de poursuivre jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et vous, qu'en pensez-vous? Philippe Sanfourche sera avec nous après 14h.
Eh bien ça, on pourra l'interroger. Et ça sera formidable. On a donc terminé avec Francis. Nous sommes désormais avec Charles. Bonjour Charles.
Oui, bonjour.
Vous avez écouté notre discussion. Qu'en pensez-vous?
Absolument. Eh bien, écoutez, moi je pense que la possible candidature d'Éric Zemmour n'est pas du tout incongrue. Parce que si vous regardez, ne serait-ce que les responsables d'Europe Écologie des Verts, quand vous voyez des menus sans viande à Lyon, la future mosquée à Strasbourg, le sapin de Noël de Bordeaux, enfin, je veux dire, c'est quand même un amoncellement d'inepties. Bon, visiblement, ça choque pas grand monde, ou en tous les cas, enfin, moi, ça me choque personnellement. Donc, honnêtement, je préfère, si vous voulez, en quelque sorte, la colonne vertébrale idéologique de Zemmour, au moins, il en a une. À ses inepties. Donc ça serait pas pourquoi sa candidature serait plus incongrue que ce qu'on nous propose par ailleurs. C'est quelqu'un qui est un érudit, qui connaît parfaitement l'histoire de France, qui fait des bons diagnostics avec lesquels la plupart du temps, je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec ça. Et déjà d'établir le bon diagnostic, ça me paraît déjà.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais moi, c'est souvent des conversations que j'ai avec lui parce que il dit au fond ce que beaucoup d'hommes de droite disaient dans les années 60, 70 ou 80, et même beaucoup de gens au RPR. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez une immigration ou des enfants de l'immigration qui sont sur le sol français. Vous avez donc 10 millions de musulmans. Bon. Ou 8, ou... En tout cas, vous avez aujourd'hui une nouvelle religion qui est en place, avec des codes, des mœurs parfois différentes. Bon. Comment vous faites ?
Je vais vous dire quelque chose.
Si l'assimilation ne marche pas, est-ce qu'il y a un modèle communautariste possible en France ? C'est ça la question.
Alors, est-ce que, moi, je me permets juste de vous dire quelque chose, Pascal. Hein. On déplore tous les jours du laxisme dans la justice, dans l'éducation nationale, la remise en cause de toute forme d'autorité dans le pays. Les citoyens français souffrent. Hein, je dis bien les citoyens français en globalité, hein, sans faire de distinction de religion ni quoi que ce soit. À un moment donné, on ne peut pas d'un côté déplorer ça et puis rejeter en bloc, par exemple, quelqu'un comme Zemmour qui a un discours, qui
non
a
mais
une volonté...
J'entends, mais qu'est-ce que... La difficulté, j'entends ce qu'il dit. J'entends que la société a changé, j'entends que les codes ont changé, j'entends que le Tour de France n'est pas le même, que l'équipe de France n'est pas le même, c'est ce qu'il disait, qu'il développait hier soir. J'entends, mais... Et je peux à la limite regretter cela. Pourquoi pas ?
Ça se tient, Pascal. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il déplore un manque de volonté d'intégration et surtout d'assimilation.
Oui.
Moi, je ne trouve pas ça scandaleux. Lui, il n'est pas contre... forcément contre les musulmans de façon simpliste, comme on a tendance à le dire. Il se dit qu'en France, en fait, en général, les personnes qui sont issues de l'immigration, même si c'est la seconde génération, en fait, il déplore un manque de volonté de ces personnes-là de s'intégrer et de s'assimiler.
Mais
c'est quand même pas une insulte.
Ça, c'est l'interprétation qu'il fait. J'entends, mais on a parlé du voile tout à l'heure. Effectivement, le voile ne correspond pas à la société, aux mœurs, à la culture française. Mais comment vous faites aujourd'hui avec des jeunes femmes qui ont 20 ans et qui portent le voile ? Il y a deux solutions. Vous faites une loi pour dire qu'il n'y a pas de voile dans l'espace public ? C'est quoi la solution ?
Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je veux dire, on peut légiférer, on peut le problème en fait de ce qui, enfin, au sommet de l'État, le gros problème, c'est un manque d'autorité. Voilà, parce que la démocratie, c'est pas l'individualisme à tout craint. La démocratie, c'est pas la pagaille, c'est pas l'anomie, c'est pas l'absence de règles. La démocratie, justement, c'est normalement, ça serait un retour à des règles et des règles qui font que les gens peuvent vivre ensemble sans se rejeter mutuellement. Sans qu'il y ait un rapport de dominant, de dominé, sans que des personnes qui veulent absolument afficher leur religion provoquent du rejet vis-à-vis des autres citoyens. Donc, en fait, on a besoin, je pense, à la tête du pays de remettre un peu d'ordre.
Non, mais là-dessus, l'ordre, Xavier Bertrand dit la même chose. Merci en tout cas, Charles, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Philippe est là également. Philippe, mais...
Ah oui, bonjour, monsieur Pro.
Bonjour, Philippe. Quel est votre sentiment ? D'abord, est-ce que c'est une candidature crédible ? Puisque c'était notre question du jour.
Oh ben, de toute façon, bon, M. Zemmour, ce n'est pas non plus n'importe qui. Donc, elle a sa crédibilité. Pourquoi pas ? Moi, je pense que ça va retomber comme un soufflet. Mais, parce que, bon, c'est un homme médiatique construit par les médias. C'est un journaliste. Il a intervenu à la radio, à la télévision, à la presse écrite. Il a son public. Il a ses fans. Mais entre fan et électeur, il y a quand même une petite nuance. Et si vous me permettez, Monsieur Proulx, je voudrais quand même, parce que j'ai écouté tout ce qui s'est dit sur Éric Zemmour, à la fois dans votre présentation tout à l'heure et puis depuis, dans la discussion avec les auditeurs, je trouve quand même qu'on a oublié quelque chose. C'était un peu flatteur la manière dont on parle de Zemmour et vous-même, parce que vous travaillez aussi avec lui, sur, ou en tout cas dans la même télévision que lui. Mais on oublie quand même de signaler que c'est quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois, de multiples reprises par la justice pour provocation à la haine raciale, vous ne l'avez pas dit. Vous n'avez pas non plus dit que c'est un apologue de la théorie du grand remplacement défendue par M. Renaud Camus, et théorie qui a d'ailleurs débouché sur des meurtres en Nouvelle-Zélande, puisque le meurtrier en Nouvelle-Zélande s'est réclamé de la
théorie. Oui, quoi, les soins, franchement, je veux bien entendre les premiers, mais arrêtez de dire que la théorie du grand remplacement est à... Parce que là, on va tous se faire ses procès.
Il en fait l'apologie.
Il n'en fait pas exactement, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Mais nul ne contestera que dans certains quartiers, là encore, on ne peut pas aller contre le réel. Vous allez dans certains quartiers, aujourd'hui en France, manifestement, ce n'est pas la même population qu'il y a 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il suffit juste... Alors, ce n'est pas toute la France, mais... C'est ça le communautarisme, d'une certaine manière. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne se mélangent plus. Donc je veux bien qu'on se voile la face, si j'ose dire, sans jeu de mots, mais ça c'est un fait. En revanche, la théorie du grand remplacement, ça serait de dire que tous les blancs vont quitter le pays et vont être remplacés par des noirs. Non, personne ne dit cela de cette manière-là. Mais on va continuer là aussi cette petite discussion tout de suite après, et on reviendra sur ce que vous avez dit qui est important et que nous aurions dû dire effectivement, c'est qu'Éric Zemmour a été condamné pour haine, encouragement à la... Comment avez-vous dit la
haine raciale.
Voilà, et exactement. Même s'il conteste ça, puisque lui dit... Non mais, c'est la liberté. Je vous donne son point de vue, c'est la liberté d'expression. Oui. Et il ne faut pas non plus être naïf, parfois, effectivement, sur la justice en France. Quoi. Il peut exister parfois une justice, je ne dis pas que c'est dans le cas d'Éric Zemmour, mais il peut avoir une justice aussi qui fasse de la politique. Ce n'est pas une justice politique, mais qui fasse de la politique. Mais je vous redonne la parole dans une seconde, Philippe. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h01. Le flash avec Stéphane Genest.
Le variant Delta du Covid-19 au cœur des préoccupations des autorités. Depuis quelques jours, le taux d'incidence au niveau national ne semble plus diminuer. Ce sont les mots de Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement renouvelle son appel aux Français de se faire vacciner pour limiter la propagation de cette mutation du virus. Et alors que c'est le jour J pour le déconfinement dans le pays, les Landes, elles, conservent certaines mesures de restriction. Leur levée qui était prévue pour aujourd'hui est retardée à la semaine prochaine, le 6 juillet. La crainte d'une nouvelle vague de Covid-19 émerge donc petit à petit. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, pense que la rentrée de septembre sera synonyme de quatrième vague de l'épidémie. Il estime que les plus de 60 ans devraient bénéficier d'une troisième dose de vaccin pour faire face à cette mutation. Voilà pour l'actualité liée à la pandémie de coronavirus. On file tout de suite en Mayenne pour la cinquième étape du Tour de France.
RTL Tour de France 2021.
Et contre la montre individuelle entre Changé et Laval d'un peu plus de 27 km. Le premier coureur est parti il y a un peu plus d'une heure et demie. Et on vous retrouve tout de suite, Mourad Jabari. Vous êtes sur la ligne d'arrivée.
Exactement, 73 coureurs ont pris le départ. Le Danois Mikkel Berg a le meilleur temps pour le moment sur la ligne d'arrivée à Laval en 33 minutes et 1 seconde. Le Français Anthony Pérez, troisième meilleur temps provisoire. Il y a maintenant quelques secondes, c'est le Breton Warren Barguil qui vient tout juste de s'élancer pour cette boucle de 27 km. Où ici, sur la ligne d'arrivée, une pluie fine a fait son apparition. On l'attendait un peu plus tard dans l'après-midi. Ça change évidemment la course pour les prochains coureurs qui vont s'élancer. La chaussée va commencer à être glissante. Prochain point dans une demi-heure.
Et à ne pas manquer, à 18h30, le club Jalabert, ce sera avec Christophe Paco. Dans le reste de l'actualité, ce délai supplémentaire pour transférer ses dates de droit à la formation. Le cabinet du ministère du Travail indique à RTL que devant le nombre trop important de connexions sur la plateforme du compte personnel de formation, la date limite du transfert des droits acquis avant 2015 est repoussée. Pas de date de fixée pour l'instant. Un coup d'œil maintenant à vos conditions météo avec cette après-midi, des nuages au nord, du soleil au sud. Néanmoins, des éclaircies sont à prévoir au nord de la Loire. Les températures ne seront pas vraiment de saison. Prévoyez 15 degrés à Lille, 18 à Strasbourg, Paris, Brest et Bourges. Le thermomètre affichera 20 degrés à La Rochelle et Moulins. La maximale sera pour Nice avec 29 degrés. Et enfin, les courses, c'était à Vichy. Arrivée provisoire le 14, le 13, le 14, le 4, pardon, le 4, le 13, le 14, le 7 et le 5. 14h04. On vous retrouve tout de suite, Pascal Pro.
Merci, et nous continuons avec la question. Éric Zemmour est-il un candidat crédible à la présidentielle?
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Philippe, à juste titre, est toujours avec nous. Il a raison de rappeler les condamnations d'Éric Zemmour pour provocation à la discrimination raciale, également pour provocation à la haine religieuse envers les musulmans et pour provocation pour injure et provocation à la haine envers les musulmans. Donc c'est trois condamnations. Alors par exemple, en 2018, dans l'émission C'est à vous sur France 5, du 6 septembre 2016, en promotion de son bouquin, il déclare à propos des musulmans qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France et que tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, considèrent les djihadistes comme de bons musulmans. Et pour ces propos, la Cour d'appel le condamne le 3 mai 2018 à 5 000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse. Voilà. Après, c'est la justice est passée, mais après, certains peuvent considérer que c'est la liberté d'expression. Vous savez, c'est des sujets très larges. Mais là, en l'occurrence, la justice est passée. Et elle a considéré que ce n'était pas la liberté d'expression.
C'est un ensemble. Quand vous dites, enfin pas vous d'ailleurs, vous le dites pas, mais moi je le dis en tout cas parce que je dis mon opinion. Pour moi, il est tout à fait à l'extrême droite de l'échiquier politique, pas du tout à droite, il est à l'extrême droite. D'ailleurs, c'est un chemin évolutif sur les 20 dernières années de sa pensée. Il est vraiment maintenant tout à fait à l'extrême droite. C'est pour ça que je dis que le soufflet va retomber. Sa campagne, il va avoir des contradicteurs. Il n'a pas de contradicteurs, Éric Zemmour. Mais on ne veut pas aller le contredire.
Si je voulais vous provoquer, et Philippe, je vous dirais qu'il dit ni plus ni moins ce que le général de Gaulle pouvait dire en 60 sur ces sujets-là. Quand le général de Gaulle dit « je veux pas que les deux églises deviennent Colombé les deux mosquées », c'est une phrase qui aujourd'hui serait condamnée sans doute par la justice.
Oui, enfin, je ne voudrais pas rapprocher. Alors, c'est très bien entendu cette personne.
Oui, je me fais l'avocat du diable. Je précise que apocryphe, cette phrase. Elle est prêtée au général de Gaulle.
Oui, enfin, il se trouve que Zemmour, ce n'est pas le général de Gaulle. Pétain. Et là aussi, il est poursuivi parce qu'il a quand même prétendu, contre toutes les analyses historiques, et notamment celle de Robert Paxton, qui est le plus grand spécialiste de l'occupation, que Pétain avait sauvé des Juifs pendant la guerre, ce qui est totalement faux. Il l'a quand même dit, et répété, et maintenu. Alors, quand on le présente comme un historien très fin, c'est un historien qui ramène... Et vous l'avez très bien dit.
Mais moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique parce que ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. C'est ça le problème. C'est qu'il ne dit pas que Pétain a sauvé des Juifs pendant...
En France libre, en zone libre.
Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça dans son... C'est compliqué, c'est des sujets touchy. Ce qu'il dit dans son bouquin, c'est qu'il y a, un pacte du diable qui a été signé entre les autorités françaises et les Allemands pour épargner les Juifs français. Et, donner les Juifs apatrides. Alors vous me direz, pourquoi cette distinction ? Souvent, moi, j'ai eu cette discussion avec lui. Je lui ai dit, mais et alors ? C'était des gens que la police française a déportés. Pourquoi tu fais cette distinction ? Souvent, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais cette distinction entre les Juifs français et les Juifs apatrides ? Pourquoi tu fais cette distinction ? Bon, et c'est ça qui moi j'ai des échanges assez rudes, assez sévères avec lui d'ailleurs sur ces sujets-là, parce que c'était odieux.
Mais vous le disiez tout à l'heure, vous le disiez d'ailleurs très justement que il lui arrive plus souvent qu'à son tour, me semble-t-il, de tordre l'histoire pour faire rentrer ça.
Mais vous avez parfaitement raison. Vous savez le meilleur exemple que c'est ? Un idéologue faut s'en méfier. C'est la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne. Avant la Coupe du Monde, il m'explique sur un plateau de télé que j'animais que l'Allemagne n'est plus jamais championne du monde depuis qu'elle est multiculturelle. C'est extraordinaire. Non mais il dit ça. Donc on est avant la Coupe du Monde 2014.
Mais on finit par en rire parce qu'il est tellement prévisible.
Bon, la dernière fois que l'équipe d'Allemagne avait été championne du monde, c'était en 90. Il s'était passé donc 15 ans, l'équipe d'Allemagne n'était plus championne du monde. Un mois plus tard, elle est devenue multiculturelle avec des Allemands d'origine turque, etc. Et elle est championne du monde. Donc c'est là où l'idéologue, il est confronté au réel, parfois.
Mais il n'empêche
que sur le plan historique, politique, il peut être intéressant à écouter. En tout cas, c'est le rapport que j'ai avec lui.
Je l'écoute aussi.
C'est le rapport que j'ai avec lui, comme beaucoup de gens d'ailleurs.
Mais je pense que s'il se lance, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien et très sain pour le démocratique. Je dis juste qu'il va enfin se retrouver avec des vrais contradicteurs.
Je suis d'accord avec vous. Mais attention, parce qu'il est bon dans le débat.
Philippe. Ils vont pas le louper.
Philippe, pardonnez-moi, je vous ai apporté parfois la contradiction, mais comme je connais assez bien et que je connais assez bien ces sujets, pour en parler souvent avec lui, crois-moi, parce que moi, je lui apporte souvent une contradiction à titre amical, bien sûr, et en tout cas où on peut échanger. Vous voulez un cadeau, Philippe ? Vous êtes de l'humour, c'est bien. Et Monsieur Caranoni va vous donner un cadeau.
Bonjour Philippe. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez repartir, Philippe, avec 4 places de cinéma pour aller voir le film Le sens de la famille, comme tous les auditeurs qui sont passés sur l'antenne dans les auditeurs depuis 13h. Et puis toute la journée, tous les auditeurs qui passent sur l'antenne remporteront donc 4 places pour cette comédie familiale avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc qui sort au cinéma aujourd'hui.
Merci beaucoup.
À tout de suite. Est-ce que Philippe s'enfourche là ?
Il vient de se connecter.
Il
nous
est
l'aurons
où,
dans quelques secondes.
Il est rentré de Bucarest ou pas? Il est là ou pas? Il m'entend, Philippe Sansfourche?
Bonjour Pascal.
Je ne vous félicite pas, monsieur Sansfourche.
Ouais, écoutez, la réciproque est...
Parce que moi, quand je suivais l'équipe de France, on était champion du monde, monsieur.
Ah oui, vous avez une façon de réécrire l'histoire aussi qui peut être intéressante, quel que soit le thème.
Il a le sens de l'accueil aussi.
Et j'ai envie de défendre cette équipe de France, paradoxalement, et Didier Deschamps, parce que j'en ai marre, pour le coup, des coupeurs de tête que j'entends depuis hier. Donc je ne sais pas quelle est votre position, mais je trouve que la manière dont certains traitent Didier Deschamps, et peut-être même le président Le Graët en premier, me paraît suspect.
On peut demander le droit d'inventaire, non, sans pour autant couper les têtes.
Non, on ne demande pas le droit d'inventaire à Didier Deschamps qui est...
Ah d'accord, c'est Dieu le Père. Bon bah
exactement.
Ok, on arrête de débattre.
C'est un peu le principe de mes émissions. Ça vous a pas échappé. Non, je blague. À tout de suite, cher Philippe.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Philippe Sansfourche est avec nous et évidemment vous allez pouvoir l'interroger sur l'avenir de l'équipe de France. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire, Philippe. La première question, c'est est-ce que Didier Deschamps est en danger ?
En danger, pour l'instant, rien n'indique. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on lit le Noël Le Graët, comme on essaye de le faire depuis des mois et des années, le soutien qu'il lui a apporté hier auprès de différents micros, différents médias, est mitigé. Il fait référence à des discussions, au besoin d'éclaircir certaines choses. On sent qu'il n'est pas satisfait de ce bilan comptable. Ça, c'est une évidence, puisqu'il avait fixé les demi-finales. Mais aussi, peut-être, de certaines choses qui lui sont apparues un peu compliquées. Il va y avoir, effectivement, droit d'inventaire. Oui.
J'ai été surpris, pour tout vous dire, de la virulence, entre guillemets, des propos de Noël Le Graët. J'ai été encore plus surpris que ça arrive 24 heures après l'élimination. Et je me disais que Noël Le Graët, il doit peut-être une fière chandelle à Didier Deschamps, parce que s'il est toujours président de la Fédération, c'est peut-être parce que l'équipe de France a été championne du monde. Et j'ai trouvé que c'était pas très élégant, pour tout vous dire, aussi proche de l'élimination de l'équipe de France. Laurent est avec nous, Laurent qui habite Strasbourg, et va peut-être donner son avis, sans doute donner son avis, et pourquoi pas interroger Philippe Sansfourche. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour Philippe, et bonjour Greg.
Bonjour.
En préambule, avant de débattre, je voulais simplement dire que bon, je suis un grand fan de Zidane, comme beaucoup de Français certainement. Je trouve que la suite logique au poste de sélectionneur, ce serait Zidane. C'est pour moi une évidence, il n'y a personne dans le paysage footballistique français qui pourrait prendre le poste de sélectionneur et qui serait légitime de le prendre. Zidane a prouvé sur ses années sur le banc du Real qu'il était un bon coach. Maintenant, je ne parlerai pas de déclarations de Noël Le Graët qui sont pour moi scandaleuses, comme vous l'avez dit. Je pense qu'il doit une bien fière chandelle, sinon il serait certainement plus président de la fédération. En termes de timing, pour moi, c'est trop proche de la Coupe du Monde 2022, à mon sens. On a constaté que l'arrivée de Karim Benzema a un peu chamboulé le schéma tactique sur le front de l'attaque. On a vu qu'il y avait peut-être une liaison Mbappé-Benzema et encore pas si évidente. Griezmann un peu esselé, je trouve. Et au final, ça n'a pas fonctionné, malgré qu'on ait des individualités exceptionnelles, la meilleure attaque du monde, bref, tous les superlatifs qu'on a pu entendre. Et bien, ça n'a pas fonctionné. Benzema a quand même marqué 4 buts, c'était remarquable sur 7 euros. Et je me dis que demander à Zidane de mettre en place un plan de jeu, de sélectionner peut-être de nouveaux profils, il n'aura peut-être pas le temps de mettre en place quelque chose, et ce sera peut-être encore l'avènement d'un nouvel échec. Je m'avance.
Philippe Sansfourche, je vous réponds et analyse ce que vous venez de dire.
Non, mais je crois que l'analyse est assez clairvoyante, pleine d'à-propos. Ce qui est certain, c'est que il faut pas caricaturer le retour de Karim Benzema. Il était plus que légitime sur le plan sportif, et il a prouvé, de par son comportement, son attitude sur le terrain et en dehors, qu'il avait parfaitement entendu les critiques qui pouvaient être formulées sur une façon d'être dans le collectif par le passé. Karim Benzema, aujourd'hui, est un immense joueur sur le terrain et en dehors. Pour autant, son retour a perturbé les équilibres sur le terrain et les équilibres dans le vestiaire. Moi, je fais souvent référence à cette image, mais une équipe de haut niveau, c'est une meute de loups. avec des loups dominants et vous avez un certain équilibre à trouver, à partir du moment où vous rajoutez un autre loup dominant, et quel loup dominant, eh bien chacun essaye de récupérer son os. Et donc à ce moment-là, chacun s'arc-boute sur des individualismes forcenés, et au final, c'est le collectif qui y perd. Et donc toutes les petites choses qui viennent se confronter à la réalité du sport, c'est-à-dire une décision arbitrale, un ballon qui va sur le poteau plutôt qu'à côté, une température excessive, et bien toutes ces choses-là contre lesquelles vous vous battez facilement quand vous êtes unis, quand vous êtes moins unis, et bien la bascule, elle penche du mauvais côté.
La pause. En sous-texte, parce que... Il y a du sous-texte dans ce que vous dites. Ce que j'entends chez certains, peut-être pas chez vous, c'est qu'au fond, si Benzema n'était pas venu, même s'il a été bon, ça aurait été mieux quand même pour l'équipe de France si Giroud avait été avançante. C'est ça aussi que j'entends, une petite musique.
Eh bien,
vous
ne
le dites pas comme ça. Bien sûr que vous ne le dites pas comme ça, vous êtes trop subtil, trop intelligent. Mais j'entends cette petite musique. Alors, il a été bon Benzema, il a marqué 4 buts et c'est encore de sa faute.
Oui, mais les dommages collatéraux sont peut-être plus importants que sa performance individuelle.
Bah oui, c'est ce que vous dites.
Ce que je dis, c'est que son retour aurait dû être mieux préparé, anticipé et bien en amont.
Non, mais ça c'est intéressant et c'est courageux de le dire parce que c'est pas facile effectivement à exprimer.
Ah non, je peux vous dire que les réseaux sociaux sont.
non, mais c'est courageux.
En ébullition.
Bah oui, c'est courageux parce qu'effectivement il a été bon et on sait la polémique qui a existé sur le retour de Karim Benzema et c'est un sujet hautement inflammable. La pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Un mot de Bruno pour terminer sur Zizou. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour Pascal.
Votre avis, est-ce que Deschamps doit être remplacé par Zinedine Zidane, comme certains le disent ?
Non, bien sûr que non. En tout cas, pas avant la Coupe du Monde 2022. Didier Deschamps, il a fait ses preuves en tant que sélectionneur depuis longtemps, grâce notamment à la place de finaliste de l'Euro 2016 et puis le titre de champion du monde en 2018. Maintenant, je pense que le bilan de Didier Deschamps doit être fait. En tout cas, lors de cet Euro, il a fait des erreurs. Je pense qu'il est suffisamment intelligent et lucide pour pouvoir le reconnaître. Mais on doit garder quelqu'un comme Didier Deschamps qui a un esprit compétiteur, qui connaît bien le football, qui connaît bien son groupe, et éviter de le remplacer tout de suite par Zinedine Zidane, même si son remplacement par Zinedine Zidane et ce qui doit arriver de plus logique dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent.
Eh ben merci beaucoup Bruno. Je vais remercier également Monsieur Sanfour. Je vous ai pas parlé de ce que j'ai lu de Madame Rabiot qui se serait frictionné avec le père de Kylian Mbappé. J'ai trouvé ça tellement pathétique pour tout vous dire.
C'est pour ça que vous en parlez 20 secondes.
Ça se passe en tribune, c'est comme dans le vestiaire, ça doit rester en tribune. Vous savez,
oui, Michel mais c'était au, vu, c'était au vu de hein tous, pardonnez-moi, c'était au vu de tous et en public, donc un peu de dignité quand même, me semble-t-il. Alors oui, que dans le vestiaire, ça se passe dans le vestiaire, pour le coup. Là, les gens étaient, paraît-il, éberlués de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient.
Ah oui, mais c'est parce que ça, il y a beaucoup d'anciens journalistes qui sont infiltrés des fois dans ces tribunes, qui viennent se greffer dans les clans
J'entends.
Des joueurs qui sont aujourd'hui des multinationales.
Merci, cher ami. Vous revenez quand à la rédaction? Je vous ai pas vu aujourd'hui.
Ah, écoutez, je vais faire mon grand retour physique ce soir dans la grande émission d'Eric Silvestro.
Je vous espère. Vous étiez en direct de chez vous. Merci, cher Philippe Sanfourche.
Grand plaisir.
Et à ce soir, Laurent Tessier, le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a le plus fait réagir au standard. Éric Zemmour serait-il un candidat crédible à la présidentielle? L'avis de Charles au 32-10.
La possible candidature d'Éric Zemmour n'est pas du tout incongrue. Je préfère la colonne vertébrale idéologique de Zemmour, au moins il en a une.
Et Francis, si vous deviez faire une conclusion?
Zemmour ne sera pas candidat. C'est court, c'est concis, ça va.
Écoutez,
c'était très bien.
Bon, on pose quand même la question. Éric Zemmour sera-t-il candidat à la présidentielle? Vous, Pascal, qui le croisez dans les couloirs de CNews, avez-vous la réponse?
Le lundi, je me dis il est candidat. Le mardi, je me dis il n'est pas candidat. Le mercredi, je me dis il n'est pas assez fou pour être candidat. Il va aller se jeter dans la mare au crocodile. Et je ne suis pas sûr que ce soit son intérêt. Oh,
Un petit résumé du monde politique. Et vous insistez, j'espère, pour avoir la réponse.
Tous les jours, je le titille. Parce que c'est d'abord, c'est mon tempérament.
Et la semaine dernière, vous aviez été nombreux à nous appeler au 3210 pour parler aussi de ce sujet. Et en ce moment, Pascal, vous titillez Éric Zemmour. Mais il y a quelques jours, quelle était votre stratégie?
Et alors, je le taquine. Forcément, je lui dis, alors, tu y vas ou tu n'y vas pas
Taquiner, titiller. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu notre réalisateur, Greg Caranoni. Ça vous perturbe?
La vous voulez que je parle? Je parle. Je vous titille un peu comme vous.
Titillez-moi, ami.
Belle demande dans l'émission. Une phrase, Pascal, pour conclure en beauté.
Les hommes sont les hommes.
Mais oui, c'est beau. Mesdames, messieurs, parlons aussi football. Après l'élimination des Bleus en 8e de finale de l'Euro face à la Suisse, quel avenir pour Didier Deschamps?
Attention, Gravinger.
Zinedine Zidane est-il la solution pour l'équipe de France? Faut-il changer de sélectionneur après cette élimination? La sagesse de notre présentateur.
Il y a un moment, il faut savoir accepter, c'est le foot. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de responsabilités des uns et des autres. Parfois, c'est comme ça, ça tourne moins bien. Parole de sagesse qui m'étonne moi-même. Dans
Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec un message pour le sélectionneur Didier Deschamps. Reste chez les Bleus.
C'est lui qui décidera de toute façon, Didier. Il est assez grand pour décider, croyez-moi. Moi, je le connais depuis l'âge de 15 ans. Il joue en cadets nationaux. Je le voyais jouer au Parc de Procès.
Vous connaissez tout le monde, hein. Vous connaissez Eric Zemmour, ouais. Vous connaissez Didier Deschamps.
Mais non, mais Didier, je l'ai, il était cadet national. Je faisais des petits papiers pour West France en 80-82. Vous vous rendez compte? J'avais 17-18 ans, il en avait 15. Et c'est tellement bien sa réussite, son parcours, c'est formidable, je trouve.
Vous pensez avoir une responsabilité dans son succès?
Aucune, aucune. Il est en béton armé, le Didier. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud.